RFI. Grand reportage.
La Suède a été le premier pays au monde à reconnaître la dysphorie de genre, ce mal-être provoqué par l'inadéquation entre un sexe biologique et une identité de genre. Depuis, elle offre des soins pour conforter les transgenres dans leur démarche, devenir un homme quand on est né femme, ou l'inverse, et cela dès 16 ans, voire encore plus tôt. Pourtant, le plus prestigieux hôpital de Suède, le Karolinska, pionnier de ces traitements, a décidé en mars dernier de priver les moins de 18 ans, on parle bien sûr des nouveaux patients, d'hormones ou de chirurgie. Les médecins plaident en faveur d'un principe de précaution, alors que les associations de défense des trans, elles, dénoncent un recul. La Suède s'inquiète de la vague trans chez les jeunes. C'est un grand reportage de Frédéric Faux.
Dans son appartement de Stockholm, Hausa prend l'album où sont conservées les photos de sa fille Johanna, une à chaque début de mois. C'est le moyen qu'elle préfère pour montrer ce qui lui est arrivé.
Ça, c'est quand elle a eu 14 ans. Elle a commencé à couper ses cheveux, puis elle est tombée malade. Vous pouvez voir qu'elle était très maigre, pas du tout heureuse. Quand on l'a emmenée à l'hôpital pour anorexie, on a remarqué qu'elle suivait des transgenres sur les réseaux sociaux. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas accepter l'idée qu'elle voulait devenir un garçon. Mais elle est devenue Casper. Tout d'un coup, vous pouvez la voir plus heureuse. Ça, c'était sa période Casper. Mais après 2 ans, elle nous est revenue, comme Johanna. Quel voyage!
Quite a journey. Et pour Johanna, c'est comme si ce choix s'était imposé.
J'ai commencé à ressentir cette haine envers mon corps et j'ai essayé d'en trouver la cause. Est-ce que j'avais besoin de perdre plus de poids? Est-ce que c'était le problème? J'ai pensé ça pendant longtemps car j'avais mes troubles alimentaires. Et après, la cible a changé et je me suis dit, peut-être que mon corps est complètement contrefait, que quelque chose s'est passé à la naissance et que je ne suis tout simplement pas une fille. Si je faisais cette chirurgie pour enlever mes seins, si je prenais de la testostérone, je pensais que je serais plus heureuse. Alors j'ai pris le temps d'étudier ça toute seule sur YouTube et Instagram. Puis j'ai commencé à en parler à mes amis les plus proches, ma famille, et après au monde entier. Voilà, je suis transgenre, je vous demande de respecter cette décision et de m'appeler Casper. Et ils l'ont fait.
Casper est un cas particulier, car après avoir réfléchi pendant plus d'un an, il a décidé de redevenir Johanna, sans avoir pris de traitement ou subi de chirurgie irréversible. Mais ce n'est pas le cas de nombreux autres adolescents suédois. Le pays a été le premier au monde, en 1972, à reconnaître la dysphorie de genre, ce mal-être provoqué par l'inadéquation entre son sexe biologique et son identité de genre. Le premier aussi à prendre en charge les traitements dès 16 ans, bloqueurs de puberté pour les plus jeunes, injections de testostérone ou d'œstrogène, et puis, à partir de 18 ans, l'opération des parties génitales. D'où l'incrédulité provoquée en mars dernier par la décision du prestigieux hôpital Karolinska, ce pionnier de la dysphorie dépendant de l'institut qui décerne le Nobel de médecine, refuse désormais le traitement hormonal aux nouveaux patients mineurs. Et pour Sven Roman, psychiatre pour enfants qui travaille comme consultant dans toute la Suède, c'est une bonne nouvelle.
C'est vraiment bien qu'ils aient pris cette décision, car cette dysphorie de genre, la plupart du temps, n'en est pas une. C'est un problème d'identité au sens large. 90% des jeunes patients que je croise sont aussi autistes. Ils peuvent également souffrir de dépression, d'anxiété, de syndrome post-traumatique, d'automutilation. Pour tous ces troubles, nous avons des traitements dont l'efficacité a été prouvée par la science, mais pas pour la dysphorie de genre quand elle touche les enfants, pas du tout. Nous ne devrions pas les envoyer dans ces cliniques spécialisées qui travaillent seulement avec la dysphorie. On devrait faire le travail que l'on a toujours fait dans la psychiatrie infantile, les écouter, leur parler, et là, on peut les aider.
Le Karolinska s'appuie sur une compilation d'études montrant qu'il n'y a pas de preuve de l'efficacité de ces traitements qui sont irréversibles pour le bien-être des patients mineurs. Les effets secondaires, par ailleurs, ne sont pas négligeables.
Then it's estrogen.
Concernant les œstrogènes et la testostérone, les deux augmentent votre risque de cellules graisseuses dans le sang et de diabète. Les œstrogènes augmentent aussi le risque de caillots sanguins et d'accidents vasculaires, et ce seulement après 5 ans de traitement, alors que l'on parle là d'un traitement à vie. Il y a aussi un gain de poids, une pression sanguine qui augmente et des cancers du sein. La chirurgie génitale, elle, conduit toujours à la stérilité. Dans 2 cas sur 3, il y a des complications. Les effets secondaires sont massifs et on traite des enfants.
Cet arbitrage de l'hôpital Karolinska, cependant, a profondément choqué les transgenres suédois et les associations qui les représentent. C'est le cas de Trans Sammans et d'une de ses porte-paroles, Anne-Christine Ruth.
Ça, c'est la position des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience eux-mêmes, parce qu'ils se sentent si à l'aise avec ce sexe qu'ils ont reçu à la naissance. Dans notre association, nous avons tant de parents qui voient cette dysphorie chez leurs propres enfants, qui savent que ce que leurs enfants disent est vrai. Moi, je côtoie ces parents et ils sont désespérés. Ils voient leurs enfants souffrir parce que ce traitement ne leur sera plus accessible.
Plus largement, cette décision a suscité de nombreuses réactions, car la Suède, jusqu'à aujourd'hui, était considérée comme un des pays leaders pour les droits LGBT, et Stockholm comme l'une des capitales les plus tolérantes envers cette communauté. Elle s'y rassemble d'ailleurs régulièrement autour de grandes fêtes internationales, comme l'impressionnante Stockholm Pride, mais aussi dans une série de manifestations plus locales, comme la Run for Pride.
3, 4, 1...
C'est une course dont les bénéfices servent à financer des projets pour les LGBT dans le monde entier. L'édition 2021, qui s'est tenue fin septembre, était organisée par René Prada.
Ici, vous êtes libre d'être qui vous êtes. Deux hommes peuvent se promener ensemble et s'embrasser, deux filles aussi. Les trans peuvent continuer à aller travailler, quel que soit leur métier.
Mais en tant que trans, elle s'interroge aussi sur ce veto inattendu qui a frappé les mineurs voulant commencer un traitement.
This is not right for the young people.
Ce n'est pas bien pour les jeunes qui veulent changer leur corps d'interdire ces traitements hormonaux. C'est une mauvaise décision. Nous sommes en 2021 et il faut accélérer la recherche sur tous les traitements destinés aux trans.
Treatments around trans people.
La Suède, cependant, n'est pas le seul pays à revoir sa politique de soins. Le Royaume-Uni a fait de même. La Finlande a aussi changé ses recommandations en juin 2020 en donnant la priorité à la thérapie psychologique. Ce qui alarme les praticiens, c'est l'emballement des courbes. En 2001, seules 12 personnes de moins de 25 ans étaient diagnostiquées en Suède avec une dysphorie de genre. En 2018, on en a compté 1859. Avec une hausse particulièrement spectaculaire pour les filles de 13 à 17 ans qui veulent devenir des garçons. Pour Yeran Rostam, dirigeant de l'association RFSL Ungdom, qui s'adresse notamment aux ados trans, le phénomène n'a rien d'anormal.
La société a changé, nous sommes plus visibles, il y a plus d'acceptation. Cela conduit plus de gens à se comprendre, à se déclarer et à vouloir vivre authentiquement comme ils sont. Nous faisons différentes choses pour accompagner ce mouvement, comme créer des espaces de rencontres, comme des fêtes, des réunions dans des cafés, la participation à la marche des fiertés. On propose aussi une colonie de vacances pour les enfants trans pour qu'ils puissent rencontrer d'autres enfants qui se posent des questions sur leur identité de genre. Nous faisons aussi une action auprès des politiques, du lobbying, pour que la société aille de l'avant et que les gens comme moi, nous puissions vivre notre vie comme on l'entend.
Living my life, basically.
Mais pour le physiologiste et militant Avi Ring, dont la fille s'est suicidée après une opération de changement de sexe, la cause de cette vague trans est tout autre. C'est le surdiagnostic de certains médecins.
On voit la même explosion en Finlande, au Danemark, en Espagne, en Allemagne, en Australie, partout. Dans tout le monde occidental, c'est le même phénomène qui touche les adolescents. C'est un vrai scandale, car tous ceux qui ont des enfants savent que même à 19 ou 20 ans, ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Alors oui, il faut être respectueux, gentil, tolérant, mais pour autant, il ne faut pas sacrifier nos enfants pour ça. Ces activistes trans, les groupes pharmaceutiques les adorent, car ils veulent vendre leurs molécules. Heureusement, l'Europe du Nord est la première à dire « Maintenant ça suffit, il faut appuyer sur la pédale de frein ».
Ce qui qui est sûr, c'est que pour certains adolescents, la dysphorie de genre apporte une réponse concrète, rapide, à de vraies angoisses. D'ailleurs, ils ne la découvrent pas dans le cabinet d'un médecin, mais ici, sur les réseaux.
Hello bara och välkommen till en ny video. Och idag tänkte jag prata om min könsidentitet och jag är transsexuell.
Les jeunes transgenres suédois, très présents sur YouTube et Instagram, participeraient à une sorte de contagion sociale. Pour Johanna, en tout cas, leur rôle a été déterminant.
Ces trans sur YouTube vous disent « Comment savoir si vous êtes trans ?» Eh bien, si vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, ça pourrait être déjà le signe que vous êtes trans. Tout est fait pour vous persuader que vous êtes trans. Je suivais beaucoup ces YouTubeurs et ils m'ont beaucoup aidé. Je n'ai rien contre eux. Je voyais bien comme ils étaient heureux et je me disais « Si je peux être aussi heureux que ça, il faut que j'en sois. »
La jeune femme a depuis été raisonnée par un psychologue indépendant qui a mis d'autres mots sur son mal-être. Mais après coup, ce qui la met le plus en colère, c'est l'attitude des médecins.
Ceux qui m'ont le plus encouragée, ce sont les médecins à l'hôpital. Au premier rendez-vous, on m'a dit « Félicitations, vous avez fait votre coming out, c'est si courageux ». Ils n'ont pas fait cette enquête à laquelle je m'attendais. Dès la première fois, ils m'ont demandé « Quel traitement vous voulez faire après cette phase d'entretien ? Vous voulez prendre de la testostérone, faire une chirurgie ?» Et moi, je disais « Je pensais qu'on était là pour explorer qui je suis, en parler avec vous. » Mais dans ces cliniques spécialisées, on ne vous remet pas en question, pas du tout. Maintenant, c'est devenu tabou de remettre en cause l'identité de quelqu'un.
Le débat partage la Suède. Pour RFSL Hundomar, la décision de l'hôpital Karolinska, suivi depuis par d'autres institutions, est un recul. L'association était même favorable à une proposition de loi en 2018 qui abaissait l'âge de changement de genre à 12 ans et celui des interventions chirurgicales à 15 ans, sans consentement parental. Proposition finalement repoussée. Autant de faits récents qui montrent, selon Iran Rostam, que les politiques ne prennent pas les jeunes au sérieux.
C'est cette image qu'ils ont de la jeunesse comme étant incapable de prendre une décision ou de se connaître elle-même. Vous avez beaucoup de transgenres qui n'ont pas besoin de traitement de confirmation du genre. Ils se contentent de changer leur façon de s'habiller ou de changer de prénom. Et vous avez bien sûr ceux qui seront plus heureux avec des hormones, un travail sur la voix, une épilation. Et puis ceux qui ont vraiment besoin d'une chirurgie. Ne pas donner de traitement entraîne aussi des conséquences irréversibles. Être entraîné dans une puberté qui n'est pas la bonne a aussi des conséquences sur l'équilibre mental.
Dans l'autre camp, Sven Roman s'appuie sur la physiologie et rappelle que des parties importantes du cerveau impliquées dans les prises de décision ne finissent d'évoluer qu'à un âge très avancé.
L'évolution du cerveau ne se termine pas avant 25 ans et la dernière partie à se construire est le lobe frontal où se trouvent les facultés à évaluer les risques, par exemple. Quand vous êtes jeune, adolescent, jusqu'à 25 ans, vous ne pouvez pas prendre sereinement ce genre de décision. En Suède, par exemple, on ne peut pas demander une stérilisation avant 25 ans.
Les jeunes d'aujourd'hui ne seraient donc pas assez matures. Mais qu'en pensent les trans plus âgés, ceux qui sont souvent donnés en exemple car ils ont pris leur décision après mûre réflexion, dans une époque sans réseaux sociaux, parfois même sans Internet. Les rencontrer n'est pas chose facile. La Suède a beau être une société ouverte, tolérante, un homme qui a décidé de devenir une femme, car c'était alors le cas le plus répandu, ne passe pas inaperçu dans la rue. Alors la rencontre avec Sarah, Elena et quelques-unes de leurs amies se fait dans un café associatif de Stockholm, dans une salle à part.
La première fois que je me suis questionnée sur mon identité, c'était très tôt, vers l'âge de 4-5 ans. Je me souviens de ce programme télé où on voyait des enfants jouer et je voulais toujours être la fille. C'était dans les années 70. J'ai caché ça pendant de longues années, j'ai grandi comme un garçon. Ce n'est que lorsque je suis partie de chez moi, que j'ai fait mes études et que j'ai rencontré d'autres gens à 25 ans, que j'ai fait quelque chose.
Et pourquoi avoir attendu si longtemps ?
J'ai grandi dans une petite ville très traditionnelle. C'était très difficile d'être différent. D'ailleurs, il ne fallait pas être si différent pour se faire harceler. Et j'essayais juste de ne pas me faire remarquer.
And I was just trying to fit in and...
My name is Sarah and
Moi, c'est Sarah. J'ai 63 ans. Comme nous toutes ici, j'ai grandi comme un garçon. Mais quand j'y repense, je peux faire remonter mes premiers doutes à mon adolescence. Mais dans les années 70, on ne savait rien sur les trans. Je n'en parlais à personne. Donc ça a pris beaucoup de temps. La loi des soins pour les trans date de 1972. C'était très en avance. Mais ça ne veut pas dire que les gens dans la société la connaissaient.
Moi, j'avais commencé une famille avec 4 enfants. Après coup, j'ai bien réalisé que tout ça avait été en moi tout le temps. Mais comme disait Sarah, dans les années 70, en Suède, oui, il y avait la loi, mais rien d'autre. Les trans, je ne savais pas ce que c'était.
Aujourd'hui, aucune ne regrette son choix. Elles ont perdu certains avantages de leur vie d'avant, mais en ont gagné d'autres. La transition est possible. Cependant, elle n'est jamais totale. Il faut donc affronter le regard des autres, avec de la surprise, toujours, et de l'hostilité, parfois. Pour Elena, ce stress est quotidien.
On est toutes différentes, mais je ne pense pas qu'un seul trans vous dira que tout s'est fait sans effort, sans stress. Pour certaines personnes, le corps est très important. Rien que ma barbe, regardez, elle a à moitié disparu, mais pas complètement. Je n'ai pas envie de sentir ça, ça me gêne. Et ma voix, je travaille sur ma voix, pas toujours avec succès, mais je me demande comment ça sonne. Est-ce que les gens peuvent penser que je suis une femme? Je suis heureuse d'être dans la rue en tant que femme, mais cependant, je sens qu'on me regarde tout le temps, que je suis évaluée. Ça fait partie du stress quotidien, et ça ne dépend pas du fait que les gens soient sympas ou non. Pour moi, tout s'est bien passé. Les collègues de travail, les voisins, ils m'ont tous accepté. Mais même cette amitié, les sourires, les encouragements sont une manière aussi de me mettre à part. Je te dis ces jolies choses, mais tu es à part. Et c'est quelque chose que tous les trans ressentent.
Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, ils réalisent ça, cette contrainte ?
Je ne pense pas qu'ils réalisent, mais pour la plupart, il n'y a pas le choix. Moi, je n'avais pas le choix. Cette personne, ce n'était pas vraiment moi.
Tout ça peut faire que certaines personnes ne sont pas forcément heureuses après leur transition. Du jour au lendemain, tout le monde vous regarde. Peut-être que certains ne peuvent pas supporter cette pression psychologique.
Utom Karolinska. Kanske är det känsligt.
Des témoignages d'hommes ou de femmes qui ont regretté une transition trop rapide, quelle qu'en soit la raison, ont en tout cas contribué à jeter une autre lumière sur ce qui est devenu un débat de société. En octobre 2019, un documentaire choc de la télévision suédoise révélait que l'hôpital Karolinska pratiquait l'ablation des seins sur des filles de 14 ans et rapportait de nombreux témoignages de jeunes femmes qui regrettaient leur transition, comme Mika.
J'ai été un animal de laboratoire, car il n'y a aucune science derrière tout ça. Ils font des expériences sur des jeunes qui ont toute une vie devant eux. Ça me met en colère, je crois que c'est irresponsable.
Même malaise en écoutant Sameti, une jeune Finlandaise.
J'ai été stupide sur des tas de choses. C'est vraiment terrible de réaliser qu'on a eu tort et qu'on s'est infligé quelque chose d'irréversible à soi-même.
Plus récemment encore, c'est l'actrice et écrivaine trans Alexa Lundberg qui confiait publiquement ses doutes sur sa transition. Est-on allé trop loin par peur de ne pas être assez inclusif ? La mère de Johanna, qui a traversé tous ses doutes à travers l'expérience de sa fille, essaie aujourd'hui d'avoir une position équilibrée.
Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que dans le système de santé suédois, on m'a dit d'emblée que les parents qui s'opposent au choix de leurs enfants ne sont que des fanatiques. Je ne suis pas transphobe, mais je suis heureuse que l'on ait réussi à créer un débat plus nuancé. Oui, il y a des gens qui vont bénéficier de ces traitements et être plus heureux, mais pas tout le monde. Et il faut être très prudent avec les enfants.
Contrainte de réagir à la décision unilatérale de l'hôpital Karolinska, qu'ont commencé à suivre d'autres établissements, la sécurité sociale suédoise s'est donnée jusqu'à la fin de l'année pour établir un nouveau protocole de soins.
La Suède s'inquiète de la vague trans chez les jeunes. Un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pauline Leduc.